Vous êtes sur Colline, édition de la mi-journée de ce mercredi 11 février. Voici toute l'info près de chez nous avec Fabien Gazot.
Bonjour David, bonjour à tous. La tempête Nils arrive avec des vents violents et de nouvelles pluies sur des sols déjà gorgés d'eau. On fait le point en début de journal. Le CIVAM du Haut-Bocage lance une série de podcasts donnant la parole à celles et ceux qui se sont lancés dans une transition agricole. Les élections municipales à Thouars, deux listes vont se confronter permettant un débat d'idées sur l'urbanisme, notamment thème du premier épisode. Après l'année des arts en 2025, la ville de Bressuire place 2026 sous l'année des gourmets, coup d'envoi voit le 28 février. Enfin, 5 amis se lancent dans un raid humanitaire et sportif à partir de samedi au Sénégal. Le département des Deux-Sèvres fait partie de ceux placés en vigilance orange au cru. Les pluies sont abondantes depuis plusieurs semaines et les sols sont déjà saturés. Les cours d'eau peuvent déborder de manière conséquente, notamment au niveau de la Sèvre nantaise, classée orange en amont et en aval. Le Thouet et la Sèvre niortaise sont classés jaunes. La situation va encore se dégrader avec l'arrivée d'une nouvelle tempête. Écoutez Pierre-Henri Aubard, prévisionniste à Météo France.
On attend l'arrivée de la tempête Nils qui va encore ajouter des cumuls. Donc les sols étant gorgés d'eau, les rivières vont continuer à recueillir de l'eau et donc du coup le niveau d'eau va continuer à monter.
Des pluies supplémentaires associées à des rafales de vent?
Oui, en fait les rafales de vent, donc c'est la tempête Nils. On peut s'attendre à des rafales jusqu'à 100 voire 110 km/h localement sur le département. Mais bon, on peut considérer que les Deux-Sèvres vont subir des rafales au moins à 100 km/h. Dans la nuit de mercredi à jeudi. Il faut se tenir informé sur les sites de vigilance et de Vigicru pour surveiller les rivières à proximité qui pourraient être d'une part dangereuses pour les riverains et puis bien évidemment faire attention au vent qui est le paramètre qui est quand même très important pour cette tempête.
Peut-on imaginer une accalmie de ces conditions météo à partir de jeudi par exemple ?
À partir de jeudi dans l'après-midi, en effet, le vent va baisser après le passage de la tempête, mais on aura toujours des averses et une nouvelle perturbation est attendue pour vendredi. Alors là, on parle pas de vent fort, mais par contre, encore une fois, de la pluie et des cumuls qui pourraient être importants, même s'ils seront moins que les jours précédents. Ça continue de rajouter de l'eau dans les rivières.
Et pour suivre l'évolution de la situation, vous pouvez vous rendre sur le site de Vigicru, lequel nous dit ceci à propos de la Sèvre nantaise classée. C'est orange en amont et en aval suite aux précipitations de ces derniers jours. Les niveaux sont actuellement en hausse sur l'ensemble du bassin de la Sèvre nantaise. De nouvelles perturbations sont en cours et attendues ce mercredi, apportant des cumuls de pluie importants. La hausse des niveaux va donc se poursuivre dans les prochains jours. Des débordements peuvent être observés dans le secteur de Saint-Mémin, Cerizay et dans le secteur de Saint-Laurent-sur-Sèvre. Le Thouet et la Sèvre niortaise sont classés jaunes. Des éléments d'information que vous pouvez donc retrouver sur Vigicru. On fera le point évidemment dans le journal de 18h. Concernant le festival de poupées, le système de billetterie a subi un bug au mauvais moment à 10h ce matin à l'ouverture. Le prestataire a rétabli la situation mais beaucoup de festivaliers sont frustrés de ne pas avoir obtenu ce qu'ils étaient venus chercher. Les organisateurs se sont dit terriblement désolés pour le contretemps. La plupart des concerts ont affiché complet en quelques minutes. Le CIVAM du Haut-Bocage lance son podcast Changer de Sillon, le centre d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural qui prône une agriculture durable, souhaite par ses podcasts de 10 à 15 minutes contribuer à lever les freins au changement agricole en proposant des témoignages audio d'agriculteurs du Bocage Bressuret. Stéphanie Prestavoine, animatrice au CIVAM du Haut-Bocage.
Les podcasts sont destinés à un public agricole, mais aussi les étudiants en agriculture, les porteurs de projets bien sûr, pour inspirer certains modèles ou de trajectoires. L'idée c'est de faire découvrir des métiers, de faire découvrir des pratiques de gens qui produisent notre alimentation, celle qu'on met dans nos assiettes, et particulièrement celle qui est locale ici. Il y a beaucoup d'humains, il y a beaucoup de réflexions, il y a beaucoup d'explications, mais pas forcément de rentrer trop dans la technique. L'idée plutôt c'est d'inspirer, et si pour le public agriculteur il y a des choses à aller creuser, ben justement l'occasion c'est ensuite d'aller se renseigner sur des sites internet, de questionner à droite à gauche sur des techniques qui auront été abordées dans ces podcasts. Lors des enregistrements, on s'est rendu compte que le grand public pouvait aussi tout à fait être auditeur de ces podcasts, puisque ça explique l'expérience et la trajectoire de ferme, donc d'humain, l'expérience de chacun, et qui sont expliqués tout à fait simplement. simplement.
Et à ce jour, 3 podcasts ont été réalisés avec le précieux concours du CSC du Pays Mauléonais. Le premier est déjà en ligne, il s'intéresse à Sonia et Fabrice Coutan du GAEC Mauléonais Coutan & Co, qui ont transformé leurs pratiques et leur mode de commercialisation de leurs bovins. Sonia Coutan également au micro de Patrice Bembanangy.
Je raconte mon parcours entre 2009 et 2019. En fait, mon parcours entre mon installation, ma production de viande bovine et puis petit à petit ma désintensification de la ferme vers un peu moins d'animaux mais un peu mieux nourris. Et puis la deuxième partie, elle est plus sur l'évolution de la ferme en changeant nos pratiques. On arrivait jusqu'à l'agriculture biologique et la valorisation des animaux en vente directe. Et l'installation de mon mari qui s'est combinée à ce moment-là, qui est arrivée en 2019-2020, où on a fait un site pour la vente directe. Et ensuite, la démarche de vendre nos animaux, alors soit en local, soit vers les cantines scolaires, ou bien à Tours et à Paris. C'est expliquer comment on peut évoluer et nous donner une boîte à outils pour justement changer de pratique et toujours vivre de son métier de façon à en être satisfait.
Changer de sillon, le podcast réalisé par le CIVAM du Haut-Bocage à découvrir sur toutes les plateformes d'écoute et notamment à partir du site internet du CIVAM. Les élections municipales à Thouars, les deux candidats en quête d'habitants, l'ancien chef d'entreprise Bernard Pénaud, 70 ans, remet son titre de maire en jeu face à la liste de gauche symbolisée par Axel Urbain, 26 ans, étudiant. Le sortant n'hésite pas à monétiser l'atout de son mandat, celui du metteur en scène d'une ville en état de sommeil profond. Avant son arrivée, c'est l'homme des chantiers avec une idée fixe, attirer des habitants, comme il le détaille au micro-colline de Dominique Hérault.
Milo Berton, dans l'année et demie qui vient, Berton sera déconstruit et en reconstruction. Destination logement, au moins une trentaine de logements. Logement de qualité en cœur de ville et avec ça, dans la foulée, l'aménagement aussi de la place Jeanne d'Arc, dans l'esprit de ce qu'on a fait sur la place Lavaux, Flandre-Dunkerque, de manière à compléter ça. Il y aura plus tard la place du Boël. L'autre projet, phare, et on est bien sur l'habitat. C'est ce qui permet de regagner des habitants. Or, on a l'îlot Prévert, sur lequel on a, pendant ce mandat, fait l'acquisition, avec la critique forte, d'ailleurs, de nos amis qui se présentent aujourd'hui. C'est-à-dire, on a fait des acquisitions autour de Prévert. Et là, on a un porteur de projet qui est bien avancé. Et on est sur une opération, là, qui est de l'ordre de 55 à 60 logements de qualité, ascenseurs, 60 places en parking privatif souterrain. On est sur une opération qui pourrait démarrer avant la fin de l'année 2026. Ce sont des projets qui coûtent peu à la collectivité. Sur Berton, on a prévu une somme, depuis des années, d'ailleurs elle est publique, de 500 000 euros. Sur l'îlot Prévert, je pense qu'on va y mettre à peu près 0 euro.
Dégager des friches à moindre coût, vite remboursées par les taxes locales que paieront les nouveaux habitants, les promoteurs privés sont sollicités. Et ce n'est pas forcément la vision du candidat de gauche qui le rejoint sur le fond, mais pas sur la méthode. Axel Urbain.
Nous, on défend un urbanisme d'intérêt général, c'est-à-dire qui simplifie aussi la vie quotidienne dans toutes ces prises d'action, qui ramène des habitants et de l'activité, notamment donc dans le centre ancien. Donc pour nous, ça passe par des reconversions de friches urbaines et de bâtiments vides en logements, en lieux de service, que ce soit des lieux culturels ou de vie associative. Il faut nécessairement repérer les verrues dans la ville de Thouars et puis pouvoir prendre la main sur le maximum de foncier sur ces îlots pour pouvoir après mener des projets. Donc c'est vrai que nous, à Thouars, on manque, je dirais, cruellement de logements. Nous, on a fléché aussi dans notre programme l'îlot Berton pour en faire du logement intergénérationnel. C'est aussi le cas pour l'îlot Prévert. On souhaite aussi ouvrir la réflexion sur un déménagement du centre socioculturel pour que l'espace soit plus grand. Pour nous, c'est nécessaire de repérer ces verrues-là. Après, c'est des projets qu'on veut y amener, et avec la méthode aussi, il y a aussi une volonté citoyenne derrière de savoir ce que souhaite réellement la population thoirsaise.
Les deux candidats ne s'opposent donc pas sur l'objectif mais sur les moyens d'y parvenir. On ne s'attendait pas à autre chose, et ce qui vaut pour l'urbanisme l'est tout autant pour bien des sujets. Nous y reviendrons avec notre correspondant Dominique Hérault. Cet épisode marque le début d'une série consacrée aux grands enjeux des élections à Thouars, ville où les électeurs auront le choix, ce qui ne sera pas forcément le le cas dans les principales communes du nord de Sèvres. Après les arts, en 2025-2026 sera l'année des gourmets. À Bressuire, le lancement de cette nouvelle animation est prévu le 28 février, un samedi matin, au marché des saveurs du centre-ville, où les producteurs sollicités pour participer à l'événement vont proposer leurs produits autour d'un brunch dans une ambiance festive et interactive. Élise Fier est responsable de l'animation à la ville.
On invite tous les bressuirés et autres à venir sous notre beau marché couvert à partir de 11h ou avant pour lancer cette année des gourmets avec la compagnie Théâtre du Faune, Théâtre Burlesque, qui va nous proposer un spectacle qui s'appelle Astuces en cuisine et un brunch qui sera préparé et animé par Guillaume Le Cantinier.
L'influenceur.
L'influenceur, voilà, c'est ça.
Alors en fait, on pourra venir et participer à ce brunch, déguster.
Tout à fait, le brunch aura été collecté et préparé avec les produits locaux qui sont proposés par des producteurs donc présents au marché toutes les semaines à Bressuire.
Voilà pour vous mettre l'eau à la bouche de cette année des gourmets à Bressuire qui démarre donc le 28 février avant un autre temps fort le 28 mars, jour du carnaval où les Bressuirais pourront participer à un concours de pâtisserie pour tenter de décrocher le titre de meilleure galette au pruneau, annonçait Alain Robin, adjoint chargé de la vie associative, également au micro de Jacques. Jacqueline Pinon.
Effectivement, la galette au pruneau, c'est pour beaucoup d'entre nous, surtout quand on a un peu nos âges. Notre Madeleine de Proust, on se souvient tous de nos mamans qui faisaient cette bonne galette qu'on mangeait quand on revenait de l'école. Donc c'est une idée qu'on a eue d'avoir un concours de galette au pruneau que l'on fera le 28 mars en marge du carnaval. Hein. Et donc on va inviter tous les bressurés, les bressuraises, mais au-delà de ça, les boquins, à nous présenter leurs plus belles galettes au pruneau. Et puis on va avoir un jury de professionnels, mais pas que, hein, puisqu'on aura aussi ce qu'on appelle des gens de la société civile qui vont venir, qui vont juger. Ces galettes, et puis on ira la plus belle galette au pruneau du bocage.
Alors vous serez dans le jury ou vous allez proposer votre galette?
À votre avis? Non, je ne vais pas proposer de galette, donc voilà, je serai plutôt du côté du jury.
Et avant le titre de la meilleure galette, retenez la première date, le samedi 28 février, au marché des saveurs de Bressuire pour le lancement de l'année des gourmets. On rappelle la soirée proposée par le CERA à Bocapaule avec le philosophe et sociologue Frédéric Lenoir sur le thème quelle humanité dans 25 ans. Dans nos précédentes éditions, nous évoquions les aventures de deux de Sévrienne en Laponie. Changement de décor ce midi avec les Jog Gazelle. Ce groupe de 5 femmes prendra la direction ce samedi du Sénégal pour un défi humanitaire et sportif. Issues du club Jog Gatine de Parthenay, elles se sont lancées dans l'aventure proposée par l'une d'entre elles. Le récit de Laura Guilbeault au micro de Vincent Nori.
On s'est rencontrés par l'association Jog Gatine de Parthenay et Marion, donc une gazelle, a décidé il y a quelques années de participer à un projet humanitaire. Elle voulait embarquer des copines, donc on s'est trouvé là. L'idée, c'est de mêler la course, donc le sport et puis l'humanitaire. 5 jours, une étape par jour, et chaque jour on parcourt entre 7 et 10 kilomètres. À la fin de chaque étape, on distribue nos fournitures scolaires dans les écoles, et puis l'après-midi on participe aux animations locales avec les enfants et les familles.
Et quand votre copine vous a proposé le truc, vous avez réfléchi ou vous avez dit super aventure?
Alors non, on n'a pas réfléchi, on a dit oui tout de suite. Sans savoir quand même tout ce que ça allait engendrer derrière, parce que c'est quand même énormément de temps. C'est 1 an et demi, 2 ans de travail, mais c'est que du plaisir.
Ouais, vous partez avec plein de fournitures, c'est ça?
C'est ça, on doit apporter 23 kilos de fournitures chacune. Voilà, donc crayons, livres. Et puis à côté de ça, on a fait un projet avec 2 écoles, avec l'école de Saint-Pardoux et l'école de Lamara de Parthenay. Les enfants nous ont préparé des petits jeux plastifiés, nous ont fabriqué des abécédaires. Donc voilà, autant de jeux qu'on va pouvoir présenter aux écoles directement, donner en main propre aux enfants.
Les Deux-Sèvres seront donc bien représentés lors de cette édition 2026 de la Sénégazelle du 14 au 22 février.
Quel temps aujourd'hui? Découvrez la météo avec Seolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres.
Le département des Deux-Sèvres est donc placé en vigilance orange. Nous l'évoquions en début de journal avec de nouvelles pluies modérées cet après-midi, plus intenses en soirée, pluies qui interviennent sur des sols déjà gorgés d'eau, pluies qui vont perdre en intensité mais que l'on retrouvera demain. Le vent, lui, monte en puissance avec des rafales à 85 km/h cet après-midi jusqu'à 100 km/h en soirée et la nuit prochaine. Un vent qui souffle fort encore demain, il faudra attendre la soirée pour que les rafales retombent aux alentours de 60 km/h. Les températures, elles sont relativement douces, hein, 12-13 degrés cet après-midi pour les maximales. Toute l'info près de chez vous revient désormais ce soir à 18h avec Patrice Bémanangy. Bon après-midi.